L'approche philosophique de la personne par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 22 décembre 1995, 9e conférence.
C'est la dernière journée. Donc, seul on doit avancer encore plus profondément. La recherche de la vérité. Ça doit être comme une décision qu'on prend tous les jours pour éveiller notre intelligence, la réveiller. Son bien, c'est la vérité. Alors vous allez poser la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous comprenez que mon intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. Il faut bien distinguer sincérité et vérité. Sincérité, c'est quand on dit ce qui est conforme à notre cœur, à notre affectivité, à ce que nous pensons. Mais ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, le Saint-Père, dans son encyclique, Splendor Veritatis, qui est une encyclique écrite pour les évêques et les théologiens, donc est très difficile pour la plupart des fidèles. C'est le Saint-Père qui descend dans l'arène et qui montre que, de fait, beaucoup d'évêques auraient dû agir et ne l'ont pas fait. Alors il est obligé d'agir. C'est impressionnant. Il dit qu'il y a une crise de la vérité. Et je crois que c'est vrai. Que c'est ça. La vérité, aujourd'hui, n'est plus le bien de l'intelligence humaine. C'est la première chose qu'on doit regarder. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est que l'intelligence dit, exprime, saisis ce qui est la réalité et qu'elle est en conformité avec la réalité. La réalité, vous comprenez bien, c'est pas seulement le monde physique. La réalité, c'est l'homme. C'est vrai, c'est la réalité la plus parfaite que je connaisse. C'est l'homme. Et la personne humaine, la vérité, c'est dire quelque chose qui est en conformité avec la personne humaine. Et si je découvre qu'il y a une réalité suprême qui est Dieu, c'est être en conformité avec la volonté de Dieu. Les stoïciens qui enseignaient à Rome en l'an 50 après Jésus-Christ, Épictète. Alors, il ne faut pas oublier que Pilate, qui était quand même un homme intelligent, formé au stoïcisme de Rome, à ce moment-là, tous les hommes politiques faisaient de la philosophie. Ils étaient formés par la philosophie. Et donc, être un ami de César, un envoyé de César, dans un pays particulièrement difficile, c'est sûr. Pilate n'était pas formé pour rencontrer Jésus. Ça, c'était pas dans le programme. Envoyé à Jérusalem. Ce petit peuple qui, au milieu de l'athéisme, affirmait le monothéisme, un seul Dieu, était un peuple religieux. Et voilà qu'il y a une querelle à l'intérieur même de ce peuple, à cause de la personne de Jésus. Et Pilate doit dire la vérité. Voyez, j'ai toujours cherché dans l'évangile de Jean, que j'aime et qu'il faut aimer, parce que c'est l'ultime révélation. C'est la fine pointe de la révélation. Je vois que Jésus s'adapte merveilleusement à chaque personne. Jésus parle à Nicodème avec netteté. Jésus parle à la Samaritaine, deux extrêmes de la communauté. C'est vrai. Deux extrêmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Jésus est proche de ces deux extrêmes. Je me suis toujours demandé, quand Jésus parlait à un philosophe, est-ce que Jésus parle à un moment donné en philosophe ? Ça m'intéresse. Je crois que c'est dans le dialogue avec Pilate. Parce que Pilate est un païen, mais quand même un homme instruit. Un homme qui a été à l'école stoïcienne et qui était philosophe à sa manière, comme un politique. Un homme politique doit être un peu un philosophe. Un grand homme politique doit avoir cette vision de l'homme. Et Jésus commence par corriger Pilate. C'est extraordinaire. Quand Pilate dit, tu es le roi des Juifs, es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui dit, dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit ? Ah, quand on exerce l'autorité, on doit connaître soi-même ce qu'on dit. Et si on ne connaît pas soi-même, on donne ses sources. Pilate aurait dû dire, les grands prêtres disent que tu as dit que tu étais le roi des Juifs. Et Pilate a télescopé. Il a dit, es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus dit, dis-tu toi-même, ou un autre te l'a dit. C'est une correction merveilleuse pour l'exercice de l'autorité. Et ça, c'est philosophique. C'est humain, au sens le plus fort. Si vous exercez l'autorité, vous devez dire vos sources. Si vous n'avez pas fait vous-même l'enquête. On ne peut pas faire une enquête de tout, hein. Mais on dit ses sources. Un philosophe m'a dit ça. Un savant, un grand savant m'a dit ça. Un homme politique m'a dit ça. Un philosophe m'a dit ça. Et à Pilate, Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Un philosophe stoïcien comprend ce que ça veut dire. Et donc quand on dit que Pilate dit, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Pilate dit ça très sérieusement. Qu'est-ce que c'était pour Épictète, philosophe stoïcien à Rome en l'an 50. Épictète dit que la vérité, c'est de conformer son vouloir, sa volonté, à la volonté de Zeus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs et le dieu des dieux. Zeus, le grand dieu, conformer sa volonté à la volonté de Zeus. C'est beau, ça c'est la vérité pratique. Et Jésus dit ça, et il sait que Pilate comprend. C'est très extraordinaire de voir le langage de Jésus devant Pilate. J'aime beaucoup ça, moi. Parce que c'est un moment où Jésus parle à quelqu'un qui cherche la vérité. Et il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Oui, alors là, on rejoint le christianisme et le philosophe. Jésus cherche la vérité. Et tout chrétien doit chercher la vérité. Puisque Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et tout homme bien né doit rechercher la vérité. philosophe doit rechercher la vérité. C'est un moment impressionnant, ça. Parce que ça montre bien que ce qui structure la personne humaine, c'est cette recherche de la vérité. Le jour où l'humanité ne cherche plus la vérité, qu'elle se replie sur elle-même pour être sincère. On assiste nécessairement à une déroute de l'humanité qui ne sait plus où elle va. Vous voyez, quand on regarde tout le monde d'aujourd'hui, où va l'humanité? Où est-ce qu'elle va? Quelle est son orientation? Quelle est sa recherche de vérité? Comment est-elle au service de ceux qui ont autorité? Vision de l'homme, la vision de la personne humaine. La recherche de la vérité structure la personne humaine. Alors vous avez la vérité pratique, vous avez une vérité cherchée pour elle-même. La vérité pratique conformée notre volonté à la volonté de Dieu. Si on a découvert l'existence de Dieu, si on croit en Dieu, la volonté du Père. Et si on n'a pas découvert Dieu, on doit chercher la vérité pratique en reconnaissant que ceux qui ont autorité, cette autorité, si elle est légitime, doit nous aider à chercher le bien des hommes, le bien de l'humanité. C'est la vérité politique. On doit coopérer à ça. Et la vérité plus profonde, spéculative, contemplative, c'est chercher s'il existe un être premier. Et s'il existe un être premier, conformer notre recherche philosophique à la réalité, à l'homme, dans ce qu'il a de plus grand, de plus profond. Essayez de comprendre s'il existe vraiment un Dieu. Et s'il existe un Dieu, se mettre à son service. L'adorer et le contempler. C'est ça la recherche de la vérité, ça va jusque-là. Alors c'est ça qui doit être comme la lame de fond de notre personne humaine et de la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine repose sur cette recherche de la vérité qui doit aller toujours plus loin, jusqu'au bout. Et on recherche toujours la vérité pour la préciser, pour mieux la connaître, pour mieux l'aimer, pour mieux la contempler. Parce que la vérité, en définitive, c'est Dieu. Si Dieu existe, il est la vérité. Et pour nous chrétiens, c'est le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et donc c'est notre conformité au mystère du Christ. Ça va très loin, cette recherche de la vérité. Vous voyez, un vrai philosophe, c'est-à-dire un homme qui recherche la vérité, et donc une vraie personnalité humaine qui recherche la vérité, ne peut pas rejeter a priori l'existence de Dieu. Il n'a pas le droit. Un a priori affectif. Dieu ne peut pas exister. Est-ce que vous l'avez cherché? Un homme qui est droit, qui cherche la vérité, ne peut pas rejeter l'existence du Christ. Parce que si l'humanité a reçu la visite de Dieu par le Christ, je ne peux pas c'est ça qu'a dit cet envoyé de Dieu pour le bien des hommes. Et donc, je dois chercher ce que Jésus a dit. Je sais que j'ai beaucoup de peine de le suivre, c'est sûr. Avouez qu'on est pécheurs, on l'est tous. Mais on recherche tout le temps la vérité. En cherchant la vérité, c'est-à-dire ce que Jésus a dit, être conforme à cela, c'est avoir cette vérité pratique. Et cette vérité pratique va me conduire à une vérité tout court. Regardez Jésus, contemplez Jésus. Cette contemplation d'un Dieu qui se fait tout petit enfant. C'est ça la chose la plus bouleversante de notre humanité. C'est sûr. Noël nous remet devant cette réalité. Si je suis chrétien, et si je ne suis pas chrétien, je dois reconnaître que historiquement, il y a eu ça dans l'humanité. Et que je n'ai pas le droit de le biffer en disant oui, ça existait. Mais les hommes ne l'ont pas écouté. Les hommes ne l'ont pas reçu. C'est vrai, les hommes l'ont crucifié. Mais Jésus est ressuscité. Et ce mystère de la résurrection montre qu'il est toujours avec nous. Si nous voulons le recevoir. Vous voyez, la recherche de la vérité, c'est quelque chose de capital pour nous. C'est pas commode. Il faut accepter d'être seul. Ce que je disais hier, la parole de Peggy, ça reste tout juste. Mais on n'est jamais seul dans la recherche de la vérité. Parce que tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. L'amitié profonde, au point de vue de la personne humaine, c'est à l'égard de ceux qui recherchent la vérité et qui essaient dans leur vie d'être vrais. En acceptant qu'il y a des situations limites et très difficiles à vivre. Reconnaître qu'on est quelquefois à côté de la vérité ne nous fait pas quitter la vérité parce qu'on sait qu'on est faible. Mais camoufler la vérité pour la sincérité, ça c'est mauvais. C'est pas commode, hein, la recherche de la vérité. C'est sûrement quelque chose qui nous empêche de rester fixé sur soi. C'est le grand dépassement de l'homme, la recherche de la vérité. Et c'est découvrir cette dignité radicale de l'homme. Je vois qu'il y a deux questions, je présume, et c'est à l'égard de la vérité. La recherche de la vérité peut-elle finaliser ma vie? Oui. Ce qu'il y a de plus grand dans ma vie, n'est-ce pas? Ma capacité d'aimer, oui. Mais la capacité d'aimer implique la vérité. Ce que nous allons voir dans un instant. Et donc, ce qui finalise ma vie, en premier lieu, c'est cette recherche de la vérité. Et quand je découvre que cette vérité implique un grand amour, je comprends que les deux vont s'unir. Quand je découvre que Dieu est vérité. Pouvez-vous préciser qu'est-ce que ça, qu'est-ce que veut dire que la recherche de la vérité augmente notre autonomie, étant donné qu'elle est un donné, une substance ne subsiste plus, ou moins par elle-même. Oui, mais attention, nous sommes en présence d'une substance spirituelle, l'âme. Et de mon âme spirituelle, émane, provient cette capacité de recherche de la vérité. aliénation. Quelle est la grande aliénation? C'est l'orgueil qui m'aliène. Parce que je m'exalte en méprisant les autres, en voulant toujours que ce soit moi qui soit premier. Et donc, la recherche de la vérité me permet d'avoir cette liberté intérieure. Et plus je recherche la vérité, plus je suis libre de choisir les moyens qui me conduisent à cette contemplation de la vérité. C'est en ce sens-là que la recherche de la vérité ne va pas changer substantiellement mon âme, mais elle permet à mon âme spirituelle de s'épanouir dans son exercice intérieur de la recherche de la vérité et de l'amour. Et donc, elle augmente pratiquement mon autonomie. L'autonomie d'un être spirituel n'est pas figée. L'autonomie d'un être spirituel demande de croître. Et c'est pour cela, du reste, qu'il y a un devenir, une croissance dans ma dignité personnelle. Vous voyez, quand vous voyez un tout petit enfant, vous ne dites pas « Oh, quelle merveilleuse personne !» Vous ne dites jamais ça. Vous dites ce qu'il est gentil, ce qu'il est merveilleux. Regardez ses yeux, regardez son nez, c'est merveilleux. Ce petit enfant, il ressemble à tel ou tel. Mais vous ne dites pas « Oh, quelle merveilleuse personne !» Tandis quand vous voyez quelqu'un de 40 ans, ah, vous dites « Ah là, c'est un homme, c'est une femme, une personne. » Il y a une autonomie foncière dans la recherche de la vérité. Elle est libre, cette personne. Elle a en elle quelque chose de très fort dans sa recherche de la vérité. Cette personne est finalisée, elle a un but dans sa vie. Dans mon dialogue avec les psychanalystes, il y avait eu un moment qui était très curieux. Parce qu'il me parlait de l'analyse freudienne. Il me disait qu'il y avait toujours un moment. C'est eux qui me disaient ça, parce que j'en ai pas l'expérience, mais je cite mes sources. Il y avait un moment où celui qui est sur le divan dit « Docteur, croyez-vous en l'homme ?» C'est beau comme question, du reste. Alors, je leur ai posé la question « Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là » On dit « On se tait. » Alors moi j'ai bondi à ce moment-là, je dis mais c'est criminel ça, se taire. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et vous lui dites faites des exercices de nage. J'aurais dit ça franchement, parce qu'on avait dit qu'on parlerait en toute liberté. Alors ils m'ont renvoyé la balle, ils m'ont dit qu'est-ce que vous diriez? Alors moi je leur ai dit, eh bien, je crois. Je dirais, je crois en l'homme qui a un but dans sa vie, qui est finalisé dans sa vie. Un homme qui peut se donner généreusement à la recherche de la vérité et aimer les hommes dans la vérité. J'ai développé. Et je crois que si on dit ça, ils se jetteront sur cette bouée de sauvetage pour émerger. Alors 6 mois après, Et je savais qu'en faisant ça, je faisais une erreur au point de vue de la méthode. Mais vous avez dit très bien que la méthode n'est pas un absolu, que c'est le malade qu'on cherche à guérir. C'est l'homme qui est l'absolu, qu'on aime et qu'on veut faire sortir de son marécage. Et donc, je savais que j'allais contre la méthode. Mais j'ai pensé que ce que vous aviez dit devait être juste. J'ai dit ça. Et j'ai vu, c'était exactement le geste que vous disiez. Il s'accrochait à cette bouée de sauvetage. Croire en l'homme qui a un but dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, l'homme devient un surhomme. Vous voyez dans quel sens ? Il se dépasse. Parce qu'il est accroché à un but. Il est accroché à une personne qu'il aime. Il y a un dépassement. Alors, il m'a dit, eh bien, ça a fait un bond énorme dans la guérison. Il y avait le dépassement qu'on faisait ensemble. Puisqu'au fond, le médecin est là pour être celui qui est l'ami, pour permettre un dépassement. J'ai été très heureux de ce qu'il m'a dit, parce que je lui ai dit continuer. Puisque la méthode est en vue de retrouver la santé, et donc de permettre à l'homme de retrouver confiance en lui et de confiance dans les autres. Puisqu'au fond, c'est ça tout le temps. Si on avait confiance en un homme qui est là pour être notre ami, on est à moitié sauvé. C'est ça qui permet tous les dépassements. Alors on arrive à la troisième dimension de la personne, la capacité que nous avons d'aimer. L'intelligence de l'homme, de la personne humaine, est au service de l'homme pour qu'il puisse aimer. Il y a dans l'homme une capacité d'aimer qui est merveilleuse. Mais l'amour qui regarde l'individu et la personne. L'intelligence a toujours un mode abstrait, ce qui fait que ça ne regarde pas tout l'homme. Ça met du temps avant de pénétrer dans tout l'homme. Il faut arriver à la sagesse. La sagesse recherche de la vérité, alors elle mobilise tout l'homme. L'amour mobilise toujours tout l'homme. Tout l'homme est mobilisé dans son amour quand il aime. C'est pour ça qu'il faut distinguer différents niveaux d'amour. L'amour instinctif, dont nous avons tous expérience. L'amour passionnel, lié très souvent à l'instinct, mais qui peut être romantique, qui n'est pas toujours instinctif, qui est quelquefois romantique. La passion aime le drame. Il y a un drame romantique et on les fabrique. Il y a des personnes qui, dès qu'elles sont là, il y a tout de suite un drame. J'ai connu comme ça quelqu'un. C'était une vieille tante. Dès qu'elle était là, il y avait un drame. Quand elle n'était pas là, il n'y avait pas de drame. Mais elle portait le drame en elle. Façon remarquable. Là, c'est imaginatif. Et l'imagination peut être d'une force étonnante. Elle peut mobiliser toutes les forces qui sont dans nous. Il y a un amour romantique, passionnel et romantique, imaginatif, qui nous prend et qui nous saisit. Puis il y a un amour spirituel. C'est cette capacité d'aimer quelqu'un pour lui-même que je considère à ce moment-là l'autre comme mon ami je l'aime pour lui-même, et non pas pour l'utilité, et non pas pour le plaisir. Cet amour de l'autre, de la personne humaine, pour elle-même, implique à la fois les plus grandes joies, et aussi, il n'y a rien de plus utile qu'un ami, dans les situations limites, on a recours à un ami. Et on sait qu'on peut recourir à un ami parce qu'il est un ami et parce qu'on l'aime. L'amour d'amitié. La structure de la personne humaine. Et l'amour d'amitié, c'est l'épanouissement. Parce que quand quelqu'un uniquement recherche la vérité, c'est quelquefois un petit peu rude. Mais c'est une structure de l'intelligence qui est solide et qui rejoint cette autonomie. Et on accepte de rechercher cette vérité seul. Mais quand on cherche vraiment la vérité, on rencontre des amis qui, eux, recherchent la vérité. Et rencontrer quelqu'un qui recherche la vérité et qu'on cherche lui-même la vérité. Et quand on se rend compte vraiment, ça fait des amitiés très fortes. Parce qu'on aime l'autre pour lui-même, dans ce qu'il a de meilleur. Et s'il recherche la vérité, on découvre en lui une profondeur unique. Je ne dis pas que tout amour d'amitié réclame cette recherche de la vérité. Et je dis que tout amour d'amitié solide, fidèle, implique cette recherche de la vérité. C'est là où on comprend comment cette recherche de la vérité vient purifier nos passions. La passion en elle-même n'est pas mauvaise. Je ne suis pas stoïcien. Pour un stoïcien, la passion est mauvaise. La passion n'est pas mauvaise, elle fait partie de ma personne. C'est bien évident. C'est très ennuyeux, les gens qui ne sont pas passionnés. Bah, ce sont des loups ambulantes. C'est très gênant. Quelqu'un de passionné, on voit qu'on peut tailler, hein, c'est bien. Il est passionné dans la recherche de la vérité. La passion est chose bonne quand elle est au service d'un amour plus parfait, d'un amour spirituel où on aime la personne. On aime l'autre dans ce qu'il a de plus profond et de plus lui-même. C'est une recherche. Là aussi, c'est une recherche. Pas si courant. D'aimer l'autre pour lui-même. Parce que, aujourd'hui, hélas, on fait tellement mousser les passions que la plupart du temps, on ne recherche l'autre que parce qu'il nous donne une joie passionnelle, que parce qu'il éveille la passion en nous. Et on prétend l'aimer. En réalité, on s'aime soi-même dans la passion. Et on n'aime pas l'autre. Aimer l'autre d'un amour spirituel, c'est se dépasser. C'est dans ce sens-là qu'on dit, Aristote le dit, que l'amour est extatique. Il nous fait sortir de nous pour aimer l'autre comme ami. Comme mon bien, comme celui qui est capable d'éveiller en moi un amour spirituel. Et je l'aime vraiment quand j'aime en lui ce qu'il y a de plus personnel. C'est vrai que l'amour d'amitié implique cette réciprocité. Ces deux amours qui se rencontrent et qui se nouent. Et ces deux amours qui, en se rencontrant et se nouant, permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'amour de l'autre. Mais je n'aime pas l'autre parce qu'il m'aime. Ça, c'est constamment la grande difficulté. C'est plus facile d'aimer l'autre parce qu'il m'aime que d'aimer l'autre pour lui-même. Vous comprenez bien. Parce que il y a une gratuité quand on aime l'autre pour lui. Tandis qu'aimer l'autre parce qu'il m'aime, on rattrape. Et c'est dangereux d'aimer l'autre pour, parce qu'il m'aime. Parce que le jour où j'aurai l'impression que l'autre m'aime moins, je l'aimerai moins. Et on dégringolera. Alors que l'amour doit éduquer. On s'éduque dans l'amour. Et on va toujours plus loin. Vous voyez, l'auto-éducation, c'est par l'amour. Et ça va très loin, cela. C'est se prendre en main pour vraiment comprendre que ce qu'il y a d'ultime en nous, je dis bien d'ultime, c'est de se donner. C'est d'aimer l'autre pour lui, dans ce qu'il a de meilleur. Et non pas d'aimer l'autre parce qu'il est source de jouissance pour moi. Et non pas d'aimer l'autre parce qu'il est celui qui me permet d'aller plus loin dans l'efficacité. Et l'amour des brigands entre eux. J'aime ce brigand, il est d'une efficacité. Pouh là 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 là. Avec lui, je suis sûr de réussir. Alors je l'aime, c'est indispensable. Alors j'aime l'autre comme un instrument. Et le jour où il est un tout petit peu moins habile et qui rate, je le renvoie. C'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est d'aimer l'autre pour lui-même. Alors un jour, il est fatigué. Et j'ai l'impression qu'il est triste. Alors que je voudrais que du fait que je sois là, il soit gay. Et non, il est triste. Alors si je l'aime parce qu'il m'aime, je l'aimerai moins. Je crois que constamment, hein, on croit que l'amour est gratuite. Oui, le premier amour est gratuite. Pourquoi on aime telle personne et qu'une autre personne en passe devant, sans tenir compte? Pourquoi? Les philosophes ont inventé ce fait qu'on a des possibilités d'accrocher les uns aux autres. Ça n'explique rien du tout. Hein. Il y a, foncièrement, il y a dans l'amour quelque chose qui est mystérieux. Et ce que Pascal dit reste vrai. Mon cœur a des raisons que ma raison ne comprend pas. Quand vous essayez de comprendre pourquoi vous aimez telle personne et qu'à côté, vous passez devant sans vous inquiéter. Je donne souvent cet exemple qui m'avait beaucoup frappé. Première fois que j'étais en Grèce, j'avais été avec un artiste, un sculpteur de Gênes, de Genève. Alors tout d'un coup, on avait été dans les îles, parce que c'était là qu'on retrouvait le type grec le plus parfait. Alors, je reçois un bon coup dans la poitrine. C'est mon sculpteur qui me dit « Oh, regardez cette déesse !» Alors comme j'étais en habit religieux, c'était plus difficile de regarder la déesse que lui. Lui, sculpteur, il était comme ça. Il attendait que moi aussi je sois comme ça en face d'elle. Elle avait des yeux grecs, vous comprenez. Alors ce sculpteur était « Oh là là !» Oui, ce qu'on appelle le coup de foudre. Même dans l'écriture, il y a le coup de foudre. Jacob à l'égard de Rachel. C'est évident. Pourquoi on aime telle personne? C'est mystérieux, ça. Il y a des liens comme ça. On rencontre l'autre. Et le coup de foudre peut être purement passionnel ou imaginatif. Mais quand il est réel, il y a plus. Il y a un amour. Cette personne-là qu'on choisit et qu'on aime. Ensuite, on l'aimera d'un choix libre. Au début, il y a une gratuité. L'amour a une gratuité dans ce qu'il a de plus profond. Et ensuite, il réclame d'être que l'intelligence soit au service de l'amour. Et je choisirai mon ami. Je le choisis. Au début, il y a eu un lien. C'est complexe, l'amour. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui est au-dessus du rationnel. Et mesurer l'amour par la raison, c'est tuer l'amour. Toujours. C'est Saint Bernard, et Thomas d'Aquin l'a repris, c'est Saint Bernard qui dit que la mesure de l'amour, c'est l'amour. C'est très beau. Ça montre qu'il n'y a rien au-dessus d'un amour spirituel. Au-dessus de l'amour passionnel, il y a l'amour spirituel. Mais l'amour spirituel, il a à lui-même sa propre mesure. Et ça, on le voit toujours. Vous voyez, un garçon ou une fille qui commence à aimer quelqu'un, les parents regardent ça du coin de l'œil. On disait que Socrate avait un don des dieux, un don des dieux pour discerner ce qui était aimant. Et quand j'enseignais à Fribourg la philosophie, je voyais tout de suite, parmi les étudiants et les étudiantes, ceux qui commençaient à être amoureux. Parce que d'abord, ils amenaient quelqu'un à côté d'eux, c'était, donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Ou bien ils étaient plus distraits. Ça se voyait tout de suite. Alors quand ils étaient suffisamment des amis, on pouvait leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est très curieux, c'est mystérieux. Il y a toujours quelque chose qui est au-delà de la raison, mais pas au-delà de l'intelligence. C'est pour ça que c'est si important de distinguer la raison. La raison ne sert à rien à l'amour. Mais l'intelligence, oui. Parce que l'intelligence regarde la personne. Et l'intelligence, il y a quelque chose de très juste là-dessus. Je me souviens d'étudiants que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup. Quand ils tombaient amoureux, ils ne savaient pas très bien si c'était juste ou pas. Alors ils disaient, père, vous pourriez pas nous me dire si c'est bien que j'aime cette personne. Je lui dis, mais c'est pas moi qui l'aime, c'est vous qui devez l'aimer. C'est très mauvais quand on, de l'extérieur, on dit oui, c'est celle-là, mais non. On ne peut jamais savoir. Et quand on dit les amis sont nos amis, c'est une bonne blague. Hein. Parce que c'est jamais vrai, ça. Il faut faire attention. Quand on a aimé beaucoup quelqu'un, il se marie. Il ne faut pas dire parce que je l'aime, son épouse va m'aimer. Ah, pas du tout, elle est très jalouse. Une bonne jalousie, quelquefois. Donc, il faut faire attention. Moi, j'avais pris ça comme règle de vie. Quelqu'un que je connais très bien, il se marie. Pendant un an, je ne les vois plus. Exprès. C'était important. Comme quand on devient l'ami d'un cardinal qui devient pape. Hein, c'est pas toujours la même chose. Il faut faire attention. C'est mystérieux, l'amour. Il faut respecter le duvet de l'amour, qui est quelque chose dans notre cœur, et qui est cette espèce de jeunesse de l'amour. Il y a une fraîcheur unique. Un amour ne vieillit pas. La passion vieillit. Les passions de 15 ans, les passions de 21 ans, les passions de 30 ans, les passions de 50 ans, les passions de 70 ans ne sont pas les mêmes. La passion vieillit parce qu'elle touche notre ici-bas, il touche quelque chose d'absolu. Et nous avons en nous cette capacité, et là, la personne se manifeste. Parce que c'est la personne humaine qui choisit son ami. Et qui le choisit. Alors on lui dira, pourquoi ? Parce que je l'aime. Il n'y a pas d'autre raison que l'amour. Oui. Alors c'est là où la subjectivité transcendantale joue. Parce que c'est très vrai. C'est le choix d'un ami, le choix d'une amie, c'est quelque chose d'unique au point de vue de la personne humaine. C'est quelque chose de profondément vrai, mais d'une vérité pratique. Pas spéculative, vérité pratique. Pourquoi je l'aime ? Je l'aime. Là, on donnera 36 raisons. 36 raisons. Ce ne sont pas du tout des raisons. Il ne faut pas trop banaliser un amour, parce qu'on supprimerait le duvet de l'amour. On supprimerait la gratuité de l'amour. L'amour est toujours gratuit. Quand vous aimez quelqu'un, à cause de l'utilité, à cause de la jouissance, l'amour n'est plus un amour qui peut croître. On arrête. Alors il faut se rappeler, la mesure de l'amour, c'est l'amour. Ceci est vrai pour l'amour spirituel, dans l'amour d'amitié. Et donc on respecte tout le temps la croissance d'un amour. Eh bien, l'amour d'amitié, c'est la troisième, la capacité d'un amour d'amitié. C'est la troisième dimension de la personne humaine. Quelqu'un qui se dirait incapable d'aimer, il lui manque quelque chose au point de vue de sa personne. La personne humaine est capable de choisir un ami. Et c'est quand elle le choisit que sa personne humaine se noue. Mais faisons attention. L'amour passionnel, imaginatif, fait de faux nœuds que la psychanalyse doit dénouer. Si on ne le dénoue pas nous-mêmes, si on arrive à dénouer nous-mêmes nos faux nœuds, il y a quelque chose de très grand. Et on peut les dénouer en face d'un véritable amour. Pour comprendre que cet amour n'est pas juste. N'est pas vrai. Ah, c'est pas commode. S'auto-psychanalyser, c'est pas commode. Mais ça, c'est la lucidité que donne l'intelligence. C'est la lucidité que donne l'intelligence. L'intelligence doit nous rendre lucides. Et donc, on doit savoir qu'à certains moments, il y a des fous nœuds. On s'arrête à ça et on ne devrait pas. On devrait entraîner. Vous voyez ? Aimer vraiment l'autre pour lui. Aimer vraiment l'autre pour lui, c'est l'entraîner. Aimer l'autre pour lui, c'est de savoir qu'il y a quelque chose d'infini dans l'amour. Puisque dans la personne humaine, il y a quelque chose d'infini. Mais pour ça, il faut cette très grande lucidité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.